Bonjour à tous. Ce n'est pas un mot nouveau, mais un mot à redéfinir. Dans Aujourd'hui, la guerre qui paraît chez Fayard, l'anthropologue Catherine Haas donne son analyse de ce terme employé pour qualifier des réalités très différentes. Nouvelle lecture d'enjeux extrêmement contemporains. On en parlera ensemble dans la deuxième partie de la Grande Table à partir de 12h55. Mais d'abord, Andrei Makine, romancier sans frontières, Goncourt. En 95, avec le Testament français, l'académicien publie aujourd'hui chez Grasset « Au-delà des frontières ». Un roman où un jeune auteur vivant de Linden prône dans un manuscrit non édité le grand déplacement ou quand la question de l'identité travaille les imaginaires. Andrei Makine est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Andrei Makine.
Bonjour.
Ce roman, Au-delà des frontières, s'ouvre sur le manuscrit d'un autre. Un texte qui pourrait faire l'effet d'une bombe s'il parvenait à être édité. D'ailleurs, comment ce texte pourrait-il résister à l'ostracisme idéologique ? Comment pourrait-il résister au temps qui court ? Puisqu'il prône ou anticipe le grand déplacement, une sorte d'anti-utopie pamphlétaire, comme vous l'écrivez. Quel monde imagine ce jeune auteur dans ce manuscrit ?
Voyez-vous, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je crois que beaucoup de Français, beaucoup de nos concitoyens, beaucoup d'Européens vont un peu dans le même sens. Ils ne formulent peut-être pas ces idées en les désignant comme grand déplacement, avec la référence
du grand remplacement,
le grand déplacement et le grand remplacement, mais l'idée qui sont extrêmes s'exprime et quand même trouvent leur écho dans beaucoup de cerveaux aujourd'hui. Ce qui m'a intéressé, c'est bien sûr le personnage même de ce Vivien de Linden, parce que c'est un enfant, c'est notre enfant. C'est l'enfant de cette société libérale, libertaire, qui aujourd'hui se renverse en son contraire, avec cette permissivité totale. On rencontre de plus en plus quand même le diktat du politiquement correct que vous évoquez. Oui, comment peut-on publier aujourd'hui ce brûlot ? À l'intérieur d'un roman de Makine, on peut le faire. On peut le faire grâce à ce subterfuge stylistique. Mais c'est vrai qu'il paraît impubliable. D'ailleurs, un de vos confrères journalistes, La Provence, il a dit quelque chose de très juste. Il a dit « c'est un roman scandaleux ». Le roman de Makine, scandaleux au sens noble du terme. Au sens noble du terme, au sens que lui donnait Bernanos, le scandale de la vérité. Et Bernanos ajoutait d'ailleurs, le scandale, ce n'est pas de dire la vérité, mais de ne pas la dire tout entière.
Alors, vous l'appelez cet enfant perdu d'un siècle égaré, ce jeune auteur, ce Vivien de Linden, qui a donc écrit ce manuscrit. Racontez-nous juste, si vous le voulez bien, Andrei Makine, quelles sont ses idées ? Qu'est-ce qu'il défend à travers ce grand déplacement ? Qui voit-il expulsé vers le sud, en Libye ? Parce que c'est le chemin inverse qui se produirait si ce grand déplacement s'opérait. Cet exode forcé, ce bannissement, qui mettrait-il sur le bateau ?
Ces idées, on pourrait bien sûr les désigner comme réactionnaires, identitaires, extrémistes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je serai tout à fait d'accord avec vous. C'est un enfant qui se sent tout à coup orphelin d'une grande idée nationale. Il se sent vivre dans un pays amputé de son passé, de ses traditions. Donc c'est un traditionnaliste. C'est quelqu'un qui pense qu'en revenant vers un paradis perdu, qui entre nous n'a jamais existé en France, n'est-ce pas, soyons clairs, mais qu'on pourrait retrouver cette douce France dont il rêve. Donc c'est un idéaliste qui peut être aussi parfois très cynique, très cruel dans sa vision des choses. Et il met dans ses paquebots, les politiciens bien sûr, toutes les associations immigrationnistes, tous les immigrés qui refusent l'intégration, l'assimilation, vos confrères journalistes, qui ont approuvé, non pas tous les journalistes, loin de là, tous les journalistes qui ont approuvé les massacres dit humanitaire en Libye, en Irak, en Syrie. On clame le rôle de la Russie, qui paraît ici en Occident très néfaste, mais la Russie est intervenue après 4 ans de massacre perpétré par l'Occident. On oublie ça. Le bilan était déjà à 300 000 morts. C'est à ce moment-là que la Russie est intervenue. Donc, il les met tous. Bien sûr, tout ce qui représente pour lui le people, donc toutes ces starlettes décérébrées, les penseurs télégéniques, etc. Il les met dans des paquebots, il les envoie en Libye. Donc, la solution paraît invraisemblable, beaucoup trop radicale. Mais je pense que quand on exprime une idée, il faut aller, pour démontrer ne serait-ce que sa folie, il faut aller jusqu'à son terme logique. Sinon, il y a toujours des non-dits. Et les non-dits, c'est comme des abcès qui un jour crèvent et puis qui nous contaminent.
Voilà, les immigrés, les associations antiracistes, les médias, les élites, les financiers prédateurs, les intellectuels bellicistes, tous expulsés en Libye à la suite des deux ex-présidents entourés de ceux que Lyndon appelle people, penseurs télégéniques, starlettes décérébrés, footballeurs, milliardaires. Mais alors si on envoie tout ce monde dans le sud, qui reste-t-il ici, en France, pour reconstruire cette nation perdue, ce beau pays rêvé, tel que Lyndon pense l'avoir perdu.
C'est là où le bât blesse. Et il est assez lucide pour comprendre que ce genre de grand déplacement ne nous conduira pas au bonheur dont il rêve. Pourquoi ? Parce qu'il imagine aussi, c'est l'autre volet de son roman, une France qui est revenue à la religiosité imposée, tout le monde va à la messe, c'est presque obligatoire, vers les traditions, mais quelles traditions ? Peut-être les plus réactionnaires. Les familles où les deux époux s'ennuient à mort, les enfants qui sont peut-être moins galvaudés, comme il dirait, par le rap et la sous-culture de masse, mais qui souffrent aussi de cet enfermement. Donc, lui, il est assez lucide pour comprendre que le grand déplacement qu'il prône nous mène aussi à un échec. Et c'est ça la force de Lyndon, la force de son livre.
Il y a quelque chose un peu du Houellebecq de soumission dans ce jeune auteur, ce Vivien de Lindey, André Makine. De qui est-il pour vous la voix aujourd'hui ? Parce que vous le dites, il y a ce discours réactionnaire où toutes les élites sont disqualifiées. Vous n'avez pas eu besoin d'aller chercher très loin pour vous glisser dans la peau de ce jeune auteur, cet enfant perdu du siècle égaré. On trouve dans le climat actuel les germes aussi de ces idéaux, de cette idéologie, de cette foi nouvelle que vous nous racontez à travers cette plume de ce jeune auteur.
Vous citez Michel Houellebecq, le philosophe qui rencontre Lyndon et qui essaie de le déradicaliser, comme on dit, cite un autre roman qui est passé parfaitement inaperçu, qui s'intitulait « La mosquée Notre-Dame de Paris ». Donc tout a été dit, bien avant Houellebecq, tout a été dit. Et il y a toute une flopée d'anti-utopies un peu dans ce sens, c'est-à-dire une guerre civile en France, une guerre ethnique en France, qui sont parfois crédibles, qui sont parfois pas du tout crédibles. L'essentiel n'est pas là. Ce qui m'intéressait, c'est le jour d'après. Qu'est-ce qui se passe après ? On réussit cette société traditionnelle, on jette dehors tout ce qui pervertit la France, d'après Lyndon, mais est-ce que c'est viable ? Est-ce que ces gens seront heureux ? Parce que la seule question qui se pose, est-ce que ça nous mène à l'épanouissement personnel ? Et là, il découvre une vérité atroce. Non, pas du tout.
Alors je vous cite encore André Makine sur cette jeunesse identitaire qu'incarne Vivien de Lyndon à travers son texte, ce manuscrit qui n'a pas été édité et dont le narrateur se retrouve en possession. Il y a son analyse de la société, de l'Occident tel qu'il est aujourd'hui. Et le narrateur le décrit comme représentatif d'une jeunesse identitaire marginalisée, une énième réincarnation des hussards qui continue à jongler avec des concepts surannés, tandis que le peuple a déjà accepté, bon gré, malgré ce nouveau monde mélangé, omnivore. Sa prose et sa disparition vont pousser le narrateur à enquêter, à chercher à comprendre les idéaux de celui qu'il prenait au départ pour un romantique aigri, venu trop tard dans un monde trop vieux. La grande question qui occupe ce roman, André Makine, et vous l'avez déjà un peu évoqué, c'est celle de l'identité. Pourquoi cette question travaille autant nos sociétés aujourd'hui ? Elle est venue prendre la place de quelle autre question ? C'est une nouvelle religion, une nouvelle idéologie pour vous, l'identité ?
Je pense que les réseaux sociaux ont joué un rôle dedans. On dit souvent que Hitler ne serait jamais venu au pouvoir sans l'apparition de la radio. Et c'est tout à fait juste. Cette contamination très rapide de nos cerveaux, enfin des cerveaux de nos ancêtres, par les idées hitlériennes, s'est passée grâce à ce moyen de diffusion très rapide et qui est entré dans tous les appartements. Les journaux n'auraient pas fait ça. Les journaux, ça aurait été beaucoup plus lent, beaucoup plus discursif. Les gens se seraient battus, vous voyez, avec les idées. Tandis que là, la radio, c'est la propagande pure. Et je pense que les réseaux sociaux, qui ont une part de responsabilité, mais en même temps, une grande ouverture aussi, je le crois véritablement, ont permis aux gens qui ne pensaient pas changer le monde au début, ça leur a permis de tout à coup de lancer ces utopies et anti-utopies. Et surtout se rendre compte dans quel monde nous vivons. Nous avons parlé déjà depuis 12 minutes. Tous les 8 minutes, une femme est violée en France. 75 000 femmes par an sont violées, battues et violées en France. Donc il y a une femme qui, statistiquement, s'est débattue quelque part sous les assauts d'une brute et elle a été étranglée ou violée ou morte même. C'est notre monde. Tous les 5 secondes, dans ce monde démocratique, un enfant meurt de faim. Toutes les 5 secondes. Je le prononce, vous voyez, je bafouille parce que ça me paraît invraisemblable, mais c'est statistique. Et les gens le découvrent. Ils découvrent aussi, avec les gilets jaunes, qu'une infirmière peut travailler pour 1500 euros. Quand une fonctionnaire d'État est nommée pour gérer un peu le mouvement des gilets jaunes, on lui octroie un salaire de 15 millions, 14 millions. Excusez du peu. Les gens commencent à découvrir ce monde. Autrefois, peut-être dans les journaux, ça aurait été plus difficile. Maintenant, tout devient transparent. Donc, ces idées identitaires, on pourrait dire passistes, on pourrait dire réactionnaires, trouvez le terme, mais ils s'expriment parce que le monde est devenu plus transparent.
C'est quand même un monde que vous nous décrivez, ce monde qui fait peur, ce monde duquel on voudrait, si on en prenait toute la conscience de sa réalité, s'extirper. Et c'est d'ailleurs aussi de ça dont il est question dans Au-delà des frontières. Mais sur cette question de l'identité que vous travaillez à travers ce roman, Andrei Makine, il faut comprendre aussi comment vous avez structuré ce livre. Mais j'ai d'abord juste une question. Vous nous disiez en ouverture que à travers le roman, ça vous a permis de publier ce faux manuscrit, ce manuscrit de ce jeune auteur qui serait, et on le sait, impubliable en l'état. Vous évoquez aussi dans le livre ce qui justifie la colère de ce jeune homme, la colère de ses hussards, les massacres au nom de la démocratie, le garrot de la censure et des idéologies. Vous pensez aujourd'hui qu'on devrait soulever le couvercle, permettre à toutes ces idées de sortir, de s'exprimer pour pouvoir en débattre plutôt que de les laisser enterrer.
Dans la marmite, oui, je pense, parce que la marmite boue et explose. Mais pour revenir à la question que vous évoquez, l'identité, ce qui sauve Linden et sa mère, Gaïa, c'est elle qui a envoyé le manuscrit au narrateur, le narrateur qu'elle va rencontrer et aimer, ce qui les sauve, c'est qu'ils découvrent la vraie identité. Et notre vraie identité, c'est notre fugacité. Nous vivons entre 20 000 et 30 000 jours. Ce n'est pas la classe, ce n'est pas la race, ce n'est pas le niveau de richesse. Non, nous sommes des êtres très fugaces. Et ça, on l'oublie souvent. Monsieur Carlos Ghosn l'a oublié. Il gagnait 15 millions par an. S'il avait lu ce livre-là, s'il avait découvert l'alternaissance, cette troisième naissance, il n'aurait jamais fait ça. Il se serait retiré à la montagne pour passer ces dernières années à réfléchir, à voir les beautés de ce monde, et non pas à se complaire dans ce jeu stupide de la deuxième naissance. La deuxième naissance, c'est notre statut social, qui nous paraît tellement important. Encore une statistique, 20 fois par jour, l'homme pense à son statut social, c'est-à-dire à sa profession, à sa promotion, à son ascension sociale. Est-ce que les collègues vont me rejeter derrière la porte? Est-ce que le patron m'aime? 20 fois par jour. Donc ça occupe un grand pan de son activité mentale. Et il pense aussi à son vieillissement, à sa péremption. Donc ces deux naissances, la naissance biologique et la naissance sociale, parfois épuisent notre être. Osmond, le philosophe qui rencontre Linden, lui essaie de lui expliquer que l'essentiel n'est pas là, n'est pas dans ces jeux racisme, antiracisme, populisme, sans frontiérisme, etc. Ces débats sont derrière nous, parce que la catastrophe nous attend, la catastrophe globale, la catastrophe planétaire. Et nous sommes sur cette barque qui prend de l'eau de tous les côtés, nous sommes encore à penser, vous voyez, au billet de la première classe ou de seconde classe. Non, on n'est plus là, on n'est plus dans cette polémique. Et si on réfléchit que ces deux identités, les véritables identités, la première, notre biologie périssable, et notre statut tellement fragile et tellement sans importance finalement, peuvent être dépassées, qu'on peut aller au-delà de ces frontières, c'est le titre du livre, au-delà de ces deux naissances, c'est là où la vraie réflexion commence.
Alors, dans Au-delà des frontières, il y a un roman dans le roman. Ça, on l'a déjà dit, André Macki. Le narrateur est en même temps le lecteur de ce manuscrit. Et votre double littéraire, Gabriel Osmond, pseudonyme derrière lequel vous avez déjà publié 4 romans à ce jour, devient un personnage du roman d'André Macki. Un homme à femme, à la trajectoire insolite, il a 1000 vies et autant de maîtresses. C'est comme ça que vous le décrivez, Gabriel Osmond. Le narrateur et lui se sont rencontrés lors d'une rixe la nuit. Que vient-il faire dans ce roman, André Macki, Gabriel Osmond? Est-ce qu'il s'est imposé ou c'est vous qui l'y avez invité?
Oui, mais que fait Madame Bovary dans la vie de Flaubert? Madame Bovary, c'est moi, n'est-ce pas? Cria-t-il en Égypte dans un voyage avec Maxime Ducamp. Oui, Madame Bovary, c'est moi. Oui, mais tous les personnages, ce sont mes doubles et moi, je suis peut-être le double de leur vie, de leurs existences. Nous avons parlé de cette extrême fugacité de notre présence terrestre, 20 ou 30 000 jours, rien. Et quand on s'en aperçoit, cher ami, c'est qu'on a vécu déjà la moitié. Donc il nous reste, à vous et à vous beaucoup plus qu'à moi, une poignée de jours, pour atteindre l'essentiel. Ce que Osmond, que ce soit Osmond, que ce soit le philosophe qui est un peu l'inspirateur des Diggers, c'est Gabriel Godbarski, tout ce qu'ils expliquent, c'est ce petit laps de temps où on peut tout réussir ou tout rater. Et le vrai choix pour l'homme, c'est de ne pas s'enferrer dans ces débats oiseux et byzantins en parlant de telle classe, de telle race, de telle couleur de peau. Non, pas du tout. À un moment, Osmond dit, mais vous regardez ce clair de lune, regardez la couleur de cette clair de lune sur nos mains. C'est ça la vraie couleur de notre peau. C'est ça notre race. La race des mortels qui peuvent arrêter un instant, suspendre un instant en disant l'essentiel se passe à cet instant-là et non pas dans les circonvolutions idéologiques.
Parce que Osmond a aussi lu et rencontré Linden. Linden est venu me voir et pendant plusieurs mois, j'ai essayé de le déradicaliser pour parler comme nos idéologues, écrivez-vous André Macki. En fait, j'ai voulu qu'il soit un peu un Daiger. Ce mot, vous venez de le prononcer, on va aussi tenter de l'expliquer parce qu'il va essayer de guérir ce jeune auteur de son mode de pensée hussardesque. Les Daigers, c'est une communauté d'hommes qui était déjà présente dans Alternaissance, le 4e roman d'Osmond, votre pseudonyme, paru en 2011 chez Pygmalion. Et c'est vrai d'ailleurs qu'Au-delà les frontières est un roman très, très osmondien, hein, entre science-fiction, mystique, anticipation. Alors il y a cette conception que les Daigers se font de la condition humaine. Quelle philosophie, vous pouvez nous la résumer?
Oui, en deux secondes, je ne pourrais pas bien sûr en parler. Mais vous avez évoqué quelque chose d'extrêmement important. Une communauté qui se crée, mais une communauté qui n'a rien de mystique, contrairement à ce que vous dites. Le mystique, c'est quelque chose qui est très mal formulé par la raison, n'est-ce pas? Quelque chose qui dépasse la raison, quelque chose qui est au-delà de l'intelligence, disons. Non, là, c'est très très bien défini. C'est des choses extrêmement concrètes dans cette philosophie qui est plutôt une sorte de vademecum existentiel. Nous sommes très brefs dans cette vie-là. Nous jouons une comédie humaine, souvent harassante et ridicule, qui nous épuise, notre statut social, notre statut professionnel, matrimonial, et ainsi de suite. Et nous ne sommes jamais contents de ce statut, comme nous ne sommes jamais contents de notre corps, de notre première naissance. Mais il y a un dépassement. Grâce à notre raison, grâce à notre intelligence, on peut aller au-delà. Et c'est ça le début, c'est ça le premier pas. Au moins, ne pas se réduire à ces deux identités.
Et alors vous écrivez, nos vraies identités sont ces 93 milliards d'années-lumière que mesure, semble-t-il, l'univers observable, notre nature de brin de poussière dans cet abîme. De même, notre vraie couleur de peau, c'est ça, oui, ce reflet argenté de la lune sur nos mains, une nuit d'automne dans ce coin perdu du Caucase. Quant à ceux qui se croient supérieurs, il faudrait leur expliquer que la seule supériorité est de savoir sortir du jeu, quitter la scène où tout le monde joue faux, tiraillé par la peur de manquer et la panique de la mort. Andrei Makine, au-delà des frontières, j'aimerais qu'on vienne juste au titre de ce roman. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de la frontière que nous donne le poète martiniquais Édouard Glissant ?
Je dirais que les poètes connaissent et acceptent l'idée de la frontière, mais pas comme muraille ou obstacle, limite, ou isolement ou enfermement. La frontière comme jouissance du passage d'une saveur à une autre, de la saveur d'ici à la saveur de là. Et il me semble que cette jouissance-là, c'est le nouveau sens qu'il nous faut donner au mot frontière. La frontière est nécessaire parce que je ne veux pas perdre la saveur que je quitte. Et je ne veux pas perdre la saveur vers laquelle je vais. Le accord n'est pas un anéantissement l'un dans l'autre. Et par conséquent, la notion de frontière a une grande beauté dans ce sens-là.
Puisqu'il est ici encore question dans votre roman, Andrei Makine, de franchissement, dans le sens aussi un peu d'affranchissement, quelle est votre définition à vous de la frontière ? Est-ce que vous partagez
c'est
ça ?
C'est très dialectique ce que Glissant dit, c'est très dialectique. C'est justement, il soupèse et il arbitre entre les deux. Les frontières sont nécessaires, mais pour une raison très simple, c'est que ça nous permet de sentir autrui, de sentir l'exotisme d'un autre mode de vie. Donc il avait tout à fait raison. Maintenant, je pourrais presque répondre par une question. Est-ce que l'Europe d'aujourd'hui est plus ouverte que l'Europe avant 1914 ? Vous me direz, mais bien sûr, l'Union européenne, on voyage sans frontières. Pas tous, n'est-ce pas ? Tolstoï, dont nous avons évoqué déjà le nom, il prenait un billet. Il n'avait pas besoin de visa, il venait à Paris, où il a assisté d'ailleurs à une peine de mort, la guillotine. Ça l'a remué, cette vision d'un homme décapité. Tchekhov, quand il voulait aller à Nice pour soigner ses poumons, il venait sans aucune autorisation. Donc l'Europe était très ouverte. Et Casanova, s'il voulait aller à Saint-Pétersbourg, il prenait le coche, il allait et parlait à la grande Catherine, en lui promettant plein de projets sociaux les plus farfelus qui soient. Donc l'Europe était ouverte, autrefois beaucoup plus ouverte que maintenant. Et on l'a oubliée. Et dans toutes ces petites discussions européennes d'aujourd'hui, c'est ça qui d'ailleurs provoque la colère des gens, parce que l'Europe n'est plus du tout à la hauteur, ne serait-ce qu'à sa hauteur culturelle.
Vous pensez que l'Europe a perdu son âme ? Le narrateur le dit à un moment, la présence humaine sur cette terre n'est-elle pas ce méthodique assassinat de l'âme, l'âme de la nature, l'âme du passé, l'âme secrète de chacun ?
Mais nous parlons de quoi quand on parle de l'Europe ? Les taux de change avec le reste du monde, le niveau de l'euro, n'est-ce pas ? La croissance, le niveau de la croissance, en oubliant que quand on parle de la croissance, on parle de plus de pollution. On parle de plus de la destruction de la nature. Ce sont des notions liées. La hausse du niveau de vie, c'est quelque chose de très légitime. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, en haussant, comme on fait aujourd'hui, ce niveau de vie, ce pouvoir d'achat, il faut produire plus, surproduire et détruire la nature. Donc on vit dans ce cercle vicieux. Et l'Europe, malheureusement, il n'a rien réinventé de ce point de vue, planétaire, hélas.
Alors vos personnages sont comme vous, dans Au-delà des frontières, partagés et traversés par ce pressentiment de fin du monde. Comme dans L'archipel d'une autre vie, votre précédent roman, le narrateur se trouve un refuge, déserte les jeux du monde, refuse la participation. Et là, c'est vraiment vous aussi que l'on retrouve dans cette manière de faire corps avec soi-même. Est-ce qu'à travers l'écriture, vous, Andrei Makine, vous pratiquez aussi une sorte de mise à l'écart ? Est-ce que vous mettez un peu ce monde abscon à distance ?
Non, j'aime beaucoup le monde des humains. J'aime beaucoup mon prochain, voyez-vous, et je ne peux pas l'abandonner. C'est pour ça que j'écris. J'aurais pu écrire des romans historiques à la russe, vous voyez, avoir beaucoup plus de succès et ne pas avoir, voyez-vous, ces réactions. C'est parfaitement scandaleux ce que dit Makin. Et ce n'est que le début, n'est-ce pas? Tout ce que je vais entendre à propos de ce roman. Non, il y aurait eu des solutions de facilité. Mais je me serais senti déshonoré. Je pense que ce livre est salvateur. Il fallait l'écrire. Je l'ai écrit difficilement. C'était un défi pour moi, un défi d'écriture, aussi, un défi d'idées. Et il fallait l'écrire pour une raison très simple. S'il y a dans ce monde une seule âme à sauver, si cette âme est sauvée, j'ai atteint mon but. Saint Paul disait « Sauvez-vous, autour de vous se sauveront des milliers de gens ». Donc je pense que le livre joue encore ce rôle. Il y a cette science philosophique, la sotériologie, la science du salut, mais chaque livre doit appartenir à ce genre sotériologique.
Qu'est-ce que vous craignez dans les réactions que ce livre va susciter? Qu'on pense que c'est vous qui parlez derrière ce jeune narrateur?
Vous savez, l'incompréhension, la facilité, la lecture superficielle, voyez-vous, je suis très étonné par la profondeur de ce que vous dites. Vous avez touché au point névralgique de ce livre-là. Sans vous cacher, et ce que je craignais un peu en venant à France Culture, je me disais, mais voilà, toute cette partie, disons, identitaire, réactionnaire, elle va passer un peu rapidement, en quelques secondes, évacuer en quelques secondes. Vous êtes entré vraiment dans le vif du sujet, sans craindre. Donc, ça me fait espérer quand même une certaine intelligence parmi vos confrères.
Demain, André Makin, c'est jour d'élection à l'Académie française. 13 candidats, dont une femme. Vous avez un favori pour occuper le fauteuil de Michel Déon, qui est si difficile à remplacer?
Je ne peux pas le dire. C'est interdit par le règlement.
Mais oui.
Hélas.
Mais sans donner le nom.
Je connais quelqu'un qui me paraît tout à fait digne de représenter la culture française à l'Académie.
Et vous la représentez, vous aussi, à votre place, tel que vous êtes, André Makin. Au-delà des frontières, c'est donc le titre de ce nouveau roman qui paraît chez Grasset. Merci d'être venu nous en parler. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de La Grande Table. On va recevoir l'anthropologue Catherine Haas. Et ensemble, nous allons parler de la guerre, puisqu'elle parcourt aussi ce roman, André Makin. On va tenter une nouvelle définition et comprendre aussi quels sont les enjeux actuels ensemble.